RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Ensemble, nous recevons Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national et député européen. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, à l'annonce des mesures prises par le gouvernement sur la fermeture des bars et restaurants et les restrictions horaires, Marine Le Pen a tweeté que ces mesures vont tuer l'économie. Que fallait-il faire pour enrayer la propagation du virus? Le Rassemblement national critique, mais est-ce qu'il a une solution?
Eh bien, nous en avions eu beaucoup durant cette épidémie, et beaucoup des solutions que nous avions proposées très tôt en fait étaient mises en place très tard. Ça a été vrai sur le contrôle des frontières, sur l'état des stocks de masques, de tests, de médicaments. Marine Le Pen avait, dès le mois de février d'ailleurs, alerté sur les frontières, saisi la ministre de la Santé publiquement à l'Assemblée nationale. Mais d'une manière générale, les Français sont un peu pris en étau entre différentes injonctions contradictoires. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, on leur a dit « faut pas porter le masque ». Maintenant, on fait ouvertement campagne pour le port du masque. Alors nous, soyons très clairs, on préfère un port du masque individuel plutôt qu'un confinement généralisé. Mais en fait, ce que les Français ne comprennent pas, ils sont prêts à tous les efforts, le port du masque, le confinement, ils sont prêts à tous les efforts, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est les incohérences de la parole publique. Et quand le président de la République dit au début du mois de septembre, on va donner une priorité à la relance économique, on va donner une priorité à la relance, aux TPE-PME, et que quelques jours plus tard, il décide de fermer des restaurateurs qui commençaient un petit peu à respirer de manière un petit peu hasardeuse, c'est-à-dire on ferme des restaurants sur la ville de Marseille, mais on continue de les laisser ouverts sur les autres communes. Le métro est ouvert, mais les restaurants doivent fermer. Les musées sont ouverts, mais les restaurants à Marseille doivent fermer. Donc c'est des décisions incohérentes que je ne comprends pas. On a un problème aujourd'hui avec la rapidité avec laquelle on obtient des tests. Il n'est pas normal qu'il faille dans certains territoires. L'autre jour, je lisais le témoignage d'un Parisien qui s'est fait tester, qui nous expliquait que son voisin a mis 24 heures pour obtenir le résultat d'un test, quand il lui a fallu, lui, 10, 12 jours pour avoir le résultat d'un test. Donc il faut aujourd'hui tout faire pour accélérer les délais de traitement des tests et surtout donner une priorité.
Mais ceux qui vont plus vite ne sont pas fiables.
Et surtout donner une priorité au public vulnérable, évidemment les personnes âgées, mais aussi les personnes dont le profil médical, des maladies chroniques par exemple, peuvent être davantage exposées au coronavirus.
Mais dans le contexte d'aujourd'hui,
les restaurants, je ne la comprends pas.
Dans le contexte, on pouvait éviter ces mesures-là, selon vous.
Mais qu'on prenne des mesures, si elles ont un sens et qu'elles sont utiles et pertinentes, je veux bien, sauf que vous fermez les restaurants.
Et c'est ce que vous avez entendu, que la communauté médicale dit, bah oui, il faut le faire aujourd'hui et il faut le faire maintenant, sinon on devra faire pire plus tard.
Enfin, les gens qui ne vont pas au restaurant,
une grande partie de la communauté médicale, pas toute la communauté médicale.
Qui dit un peu tout et son contraire, mais les gens qui ne vont pas au restaurant, à qui on interdit de faire la fête au restaurant, feront la fête chez eux. Alors que dans le restaurant, vous avez les masques, vous avez le gel hydroalcoolique. Moi, je regardais les salles de sport. J'entendais le responsable d'une association qui regroupe plusieurs salles de sport nous dire que depuis le mois de juin, il y a eu 850 000 entrées dans les salles de sport. Il y a seulement eu 13 cas Covid qui ont été détectés. C'est quoi le problème avec les salles de sport? 80% du temps, je ne sais pas si vous fréquentez des salles de sport, 80%
on
du
essaye.
Temps... moi aussi, je n'ai pas beaucoup de temps pour le faire, mais j'essaie d'y aller de temps en temps. 80% du temps, les salles sont vides. Les professionnels, les salles de sport ont mis en place des applications pour permettre aux gens justement de ne pas être à proximité, d'avoir de l'espace, de ne pas avoir beaucoup de personnes dans la salle. Donc pourquoi est-ce qu'on ferme aujourd'hui ces salles de sport, d'autant que le président de la République nous dit on va devoir vivre avec. Donc les Français sont prêts à tous les efforts, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est les incohérences de la parole publique.
Sur le traitement social de la crise sanitaire, est-ce que vous accordez un satisfecit au gouvernement avec le chômage partiel, les prêts garantis par l'État, les reports de cotisations? Beaucoup aujourd'hui d'ailleurs de chefs d'entreprise disent l'État a été très présent.
Oui, il y a eu des bonnes mesures. Le chômage partiel, vous avez raison, ça a été une très très bonne mesure qui a permis probablement de limiter les dégâts. Mais moi, je me mets à la place aujourd'hui des restaurateurs, des chefs d'entreprise, de TPE-PME. Et beaucoup me disent, mais on ne sait même pas si nos charges du second trimestre seront exonérées ou reportées. Donc que le gouvernement soit extrêmement clair avec eux. Les prêts garantis par l'État. En Allemagne, les prêts garantis par l'État étaient garantis à 100%. Or, en France, ils l'étaient à 90%. Et souvent, les 10% manquants ont été la raison pour beaucoup d'établissements bancaires de refuser des prêts. Donc, moi, je dis qu'il y a une priorité aujourd'hui pour les chefs d'entreprise, c'est l'exonération totale de charges sur le second trimestre. Ça coûte entre 30 et 35 milliards, et c'est une mesure extrêmement concrètes qui permettraient de redonner de l'oxygène aux chefs d'entreprise. Et puis, il faut aller progressivement sur une baisse de la fiscalité. Moi, je crois que la priorité aujourd'hui dans notre pays en matière économique, c'est d'une part la baisse de la fiscalité pour les ménages et pour les TPE-PME, et surtout d'arrêter avec ce modèle économique qui est basé sur le libre-échange dérégulé et qui nous a mis en réalité dans une situation difficile où on a manqué de tout durant cette crise. La France est le pays où on paie la plus haute fiscalité au monde et où on a manqué jusqu'à des produits aussi simples que sont les masques.
Le plan de relance, donc 100 milliards d'euros, c'est énorme. 45 milliards financés par l'Europe. Vous êtes sceptique, vous pensez que ce plan de relance payé en partie par l'Europe va conditionner des demandes de la part de l'Union européenne, sûr. Et notamment sur des réformes.
Bien sûr, notamment sur la réforme des retraites. D'ailleurs, Monsieur Beau, le ministre des Affaires européennes l'a dit, hein, la Commission européenne demande qu'on aille au bout sur un certain nombre de réformes. Vous savez, l'Union européenne ne nous prête pas pour nos beaux yeux, il nous prête avec des contreparties. Je vous rappelle que la Commission européenne a déjà exigé depuis maintenant 10 ans à 63 reprises que les États baissent leurs dépenses de santé, oui. Que nous avons fait des coupes, notamment dans les secteurs publics sous l'impulsion de l'Union européenne. Et cette réforme des retraites, bien sûr qu'elle est l'une des contreparties. Parce que ce soit la réforme des retraites ou la réforme de l'assurance chômage, tout cela sont écrits noir sur blanc dans les textes de la Commission européenne. Donc il faut juste que les Français sachent que sur les 100 milliards d'euros, il y a 40 milliards d'euros qui vont être accordés par l'Union européenne avec des contreparties très lourdes pour notre modèle de protection sociale.
Cette Europe que vous critiquez, j'ai envie de dire, heureusement qu'elle est là, non ?
Vous l'avez vu pendant la crise, vous, l'Europe ?
Un plan de relance.
Vous l'avez vu pendant la crise ? Moi, j'ai vu l'Italie qui est obligée d'implorer la Chine pour lui livrer des masques parce que l'Union européenne était incapable de se mettre d'accord. Parce que la seule chose qu'a fait l'Union européenne dans le début de cette crise, c'est de mettre en garde. Les États qui ont rétabli très très tôt leur contrôle aux frontières. Donc évidemment que cette Union européenne, elle a une responsabilité en matière de santé. Elle a des compétences en matière de risques sanitaires. Si, bien sûr. Il y a un fonds qui s'appelle RescueE, qui est une compétence de sécurité sanitaire où l'UE est chargée d'intervenir. Mais d'une manière générale, on a vu que durant cette crise, on a manqué de tout. Et cette crise, ça a souligné les impéricies de l'État. Et donc il est urgent effectivement qu'on se pose la question aujourd'hui de notre modèle économique et qu'on arrête d'aller délocaliser très très loin des produits qu'on pourrait fabriquer chez nous.
Aujourd'hui, on ne sait pas encore comment le remboursement de ce plan européen de relance sera effectué. Qui remboursera quoi ? Pour l'instant, on ne le sait pas. Est-ce qu'au final,
on sait qu'on va rembourser beaucoup plus que ce qu'on nous donne.
C'est ce que je voulais vous demander. Vous pensez qu'au final, ce plan coûtera plus cher à la France et qu'il ne lui rapportera ?
Il suffit de faire le calcul. Je crois qu'on va rembourser sur les 40 milliards qu'on nous donne, on va en rembourser entre 80 et 100 milliards. D'ici, je crois, 2030 ou 2040, on pourra trouver le chiffre facilement. Mais on l'a encore vu, la Commission européenne a demandé un certain nombre de contreparties. Et dans le projet de loi budgétaire qui a été présenté à l'Assemblée nationale ces derniers jours, on a une augmentation de la contribution que donne la France au budget de l'Union européenne. Donc, plutôt que d'aller donner cet argent à l'Union européenne qui va financer un certain nombre de projets, notamment à l'Est, qui organise aujourd'hui un dumping. Il suffit de le voir sur le cas Bridgestone, où en fait, une boîte japonaise va délocaliser en France pour aller s'installer en Pologne. C'est ça aujourd'hui l'Union européenne, c'est la guerre du tous contre tous. Donc nous, on veut simplement faire évoluer ces traités européens pour pouvoir avoir la possibilité de faire du patriotisme économique, de défendre une politique industrielle ambitieuse, nationale, sans que la réglementation européenne soit un frein à ce développement et surtout qu'elle crée la concurrence à l'extérieur avec le libre-échange et à l'intérieur avec, par exemple, la directive du travail détaché.
Vendredi, un Pakistanais a agressé avec un hachoir deux employés d'une société de production située dans les anciens locaux de Charlie Hebdo. L'homme a menti sur son âge et sa nationalité. Et c'est le débat sur la prise en charge des mineurs isolés qui ressurgit. Quelle politique vous préconisez pour ces mineurs isolés ? Est-ce qu'ils doivent se soumettre, par exemple, à des tests osseux, notamment.
Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons, d'après l'Assemblée des départements de France, 60 000, nous en aurons 60 000 à la fin de l'année, mineurs isolés, mineurs non accompagnés, qui ne sont généralement ni mineurs ni isolés.
Aujourd'hui, c'est plutôt 40 000.
Puisque 40 000, et les estimations de l'Assemblée des départements de France vont jusqu'à 60 000. Le problème aujourd'hui, c'est que ce soit les mineurs isolés ou que ce soit le droit d'asile, tous ces dispositifs ont été dévoyés en une filière d'immigration légale et illégale. Moi, la question que je pose au ministre de l'Intérieur, c'est que faisait ce Pakistanais dont le conseil départemental du Val-d'Oise avait indiqué qu'il n'était évidemment pas mineur, ça s'était vu assez facilement, il suffit de voir sa photo pour se rendre compte qu'il n'est pas du tout mineur, que le conseil départemental du Val-d'Oise nous dit qu'il n'est pas mineur, il doit se soumettre à un test osseux, sauf qu'aujourd'hui, le test osseux, il est facultatif. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas faire le test osseux, il y a une présomption de minorité, et donc vous restez, quoi qu'il arrive, sur le territoire français. Si nous avions été aux responsabilités, ce Pakistanais, il aurait été au Pakistan. Parce que nous n'expulsons plus aujourd'hui quasiment rien. Il y a à peu près 2/3 de ces personnes qui ne sont pas mineures, comme il y a à peu près 2/3 des demandes de droit d'asile qui ne concernent pas des pays en guerre, qui sont déboutés du droit d'asile et qui ne sont jamais expulsés dans notre pays. Il suffit de lire l'interview du président du conseil départemental, l'ancien président du conseil départemental de Seine-et-Marne ce matin dans le Figaro, qui nous dit qu'il y a 80% de fraude. Et ce sont les Français qui payent. Un mineur isolé, c'est 50 000 euros par an aux contribuables français.
Ce type
est là depuis 2 ans, il nous a donc coûté 100 000 euros pour commettre en plus une attaque terroriste.
Pour ceux qui sont véritablement mineurs, parce qu'il y en a qui ont 11, 12, 13 ans, pour cela, qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce que la France doit en effet les accueillir?
Eh bien, si ces gens-là, moi je ne remets pas en cause le principe du droit d'asile, si ces gens-là fuient effectivement la guerre, alors, ils doivent déposer.
C'est une condition, mais s'il fuit un pays, entre guillemets, sûr, pour vous, la France n'a pas à les accueillir.
C'est que, mais non, parce que, on peut pas accueillir, vous connaissez cette célèbre formule, on peut pas accueillir toute la misère du monde.
Si
des gens sont en situation de menace, sont menacés de mort dans leur pays, on peut leur accorder l'asile. Sauf qu'aujourd'hui, ils ne viennent pas de pays en guerre. Il suffit de regarder le top 3, le top 10 des pays qui demandent l'asile en France. 40% des gens qui demandent l'asile au sein des pays de l'Union européenne, ce sont les Nations unies qui nous le disent, viennent du Maghreb, viennent de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie. Est-ce que ce sont des pays en guerre? Non. Donc il faut aussi revoir la liste des pays sûrs, parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de candidats à l'asile qui ne viennent pas de pays en guerre. Le nombre de Syriens, de Libyens, dans les nombres de demandeurs d'asile, ils sont dérisoires. Donc il faut remettre un peu d'ordre dans la politique migratoire et je déplore que ce que nous disons depuis des années n'ait pas encore trouvé d'écho parce que si le gouvernement pouvait s'inspirer de nous sur les solutions et plus seulement sur les constats, alors je pense que le pays s'en porterait mieux.
Emmanuel Macron va faire un discours vendredi sur le séparatisme, c'est-à-dire tout ce qui sépare de l'État, mais bien sûr tout le monde pense au séparatisme islamique. Faut-il nommer bien les choses pour mieux les régler? Et qu'attendez-vous? Est-ce que vous estimez que les choses sont bien nommées, suffisamment nommées? Et qu'attendez-vous de ce discours, puis de ce projet de loi qui devra ensuite être écrit?
Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, disait Camus. Et la première des choses est évidemment de nommer le mal. C'est évidemment le fondamentalisme islamiste qui nous a déclaré une guerre, pas seulement une guerre idéologique, mais aussi une guerre à l'intérieur même de nos frontières, qui s'est constituée en une véritable cinquième colonne. Et la réalité, c'est que ce gouvernement n'a strictement rien fait. Combien de mosquées radicales? Il y a 200 mosquées salafistes qui sont identifiées par les renseignements. Combien est-ce qu'on en a fermé depuis qu'ils sont suivis? 7, 0 cette année. Combien de gens qui sont fichés pour radicalisation, qui sont de nationalité étrangère, a-t-on expulsé? Combien d'associations? Moi, j'ai été voir notamment dans le milieu du sport, où se diffuse beaucoup la radicalité. A-t-on dissous? Il y a à peu près 1400 individus encadrants qui sont aujourd'hui radicalisés dans les milieux du sport. Combien est-ce qu'on a dissous ces associations? 0. Combien d'associations, comme le CCIF par exemple, qui sont des associations islamistes, qui militent contre la France, qui militent contre les valeurs de la République, on a dissous? Rien, zéro.
Donc, pour vous, il faudrait dissoudre le CCIF, c'est le comité contre l'islamophobie.
Oui, je pense qu'il y a une procédure de... Oui, bien sûr. Et ce qui est encore plus délirant, c'est que ces associations, elles sont subventionnées par l'État. Le CCIF a reçu des financements de l'Union européenne en 2013. Quand est-ce qu'on va se poser la question?
Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement au CCIF? Le comité contre l'islamophobie.
De véhiculer la haine de la France, de défendre une idéologie qui est une idéologie qui nous a déclaré la guerre. Lorsqu'ils militent ouvertement pour le burkini, lorsqu'ils militent ouvertement contre la loi anti-burqa, lorsqu'ils font hurler par ses sympathisants, par ses militants, en novembre dernier dans les rues de Paris, à la Akbar, à 100 mètres du Bataclan. Vous croyez pas que quand on est dans cette attitude, on défie la France, on défie la République, et on donne quelque part de la matière aux gens qui... souhaite désormais s'en prendre à la France par les armes. Donc je dis qu'on a été extrêmement faible avec cette idéologie, qu'il faut aujourd'hui évidemment la combattre, il faut aujourd'hui la déraciner, et il faut aujourd'hui évidemment pointer du doigt toutes ces associations qui participent à la diffusion de l'islamisme dans notre pays. Et je note qu'on est bien plus faible à l'égard du fondamentalisme islamiste que ne le sont parfois certains pays arabes eux-mêmes à l'égard de cette idéologie.
Est-ce qu'on est trop laxiste aussi sur, par exemple, les études des chercheurs ont été claires, ces enfants qui sont retirés du circuit de l'école pour des associations où on leur enseigne le Coran, mais pas toujours un Coran très light.
Il y a un problème de droit aujourd'hui, c'est que l'état de droit il n'est plus adapté dans sa forme actuelle et que ces législations, ces possibilités administratives, juridiques, techniques sont bien trop faibles. Souvent quand on ferme aujourd'hui une école privée par exemple, où l'on admet qu'on diffuse l'islamisme dans cette école, alors l'école rouvre dans les 6 mois qui viennent. Et c'est vrai aussi pour les mosquées radicales, donc il faut évidemment faire évoluer notre droit. Il faut remettre en cause aussi, je crois, le port du voile pour les enfants. Moi j'ai vu... dans la cité à Saint-Denis où j'ai grandi, en face de ma cité, il y avait une école coranique privée où je voyais tous les jours des gamines de 5-6 ans qui sortaient par dizaines, une trentaine de gamines qui sortaient et qui portaient un voile. Eh bien, cela, ça ne fait pas partie des traditions de la France, ça ne fait pas partie de nos mœurs, ça ne fait pas partie de nos coutumes, ça ne fait pas partie de notre culture. Et si certains souhaitent vivre de cette manière, alors ils vont dans des pays où l'on vit de cette manière.
Oui, mais il y a un islam apaisé. Avouez que tout de même, vous faisiez référence à ceux qui soit font des attentats, etc. Mais il y a des gens qui vivent paisiblement en France, qui sont bien, qui travaillent. Et
oui, mais vous croyez pas que c'est le meilleur que d'aller lutter contre le salafisme, que d'aller interdire, par exemple, la diffusion de certains ouvrages salafistes, d'aller lutter contre le fondamentalisme islamiste, c'est pas le meilleur service à leur rendre. Il y a effectivement beaucoup de nos compatriotes de confession musulmane qui vivent, qui travaillent, qui aiment notre pays et que nous avons vocation aussi à protéger face au fondamentalisme islamiste. Mais quand je vois que dans un certain nombre de sondages, notamment un sondage IFOP qui a été commandé par Charlie Hebdo il y a quelques jours, 26% des jeunes musulmans ne condamnent pas les attentats contre Charlie Hebdo. Quand j'ai vu dans certaines classes de mon département, en Seine-Saint-Denis, après les attentats de Charlie, beaucoup d'élèves ne pas souhaiter faire la minute de silence en hommage aux journalistes de Charlie Hebdo, eh bien oui, il y a une fracture aujourd'hui qui est en train de s'organiser. Et je dis que au-delà de cette lutte qui est nécessaire contre le communautarisme, contre le fondamentalisme islamiste, il faut aussi mettre fin à la politique migratoire. Parce qu'on peut pas engager des politiques d'assimilation, lutter contre le communautarisme, quand on ne s'attaque pas à ce qui fait le communautarisme, c'est-à-dire une politique migratoire totalement anarchique.
Un tout petit mot, Jordan Bardella, il nous reste à peu près une minute. Est-ce qu'aujourd'hui, au Rassemblement National, tout le monde est unanimement convaincu que Marine Le Pen est la meilleure candidate pour 2022 ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, et beaucoup de Français aussi, je crois, puisque d'après un sondage qui est paru récemment, je suis vigilant avec les sondages, mais 34% des Français nous disent qu'ils pourraient voter pour Marine Le Pen dès le premier tour de l'élection présidentielle. Ils sont un peu plus de 45% aussi à le souhaiter au second tour. La réalité, c'est que beaucoup de Français voient bien que tous les sujets que nous avons mis sur la table, le patriotisme économique, la politique migratoire, la lutte contre le communautarisme, cette réforme qui est nécessaire aujourd'hui en matière européenne, ce besoin aujourd'hui d'instaurer la proportionnelle, le référendum d'initiative citoyenne, toutes ces idées de bon sens que nous portons, les Français voient bien que nous avions eu raison très très tôt sur beaucoup de sujets. Et oui, elle fait l'unanimité. Oui, j'ai la conviction que nous allons arriver aux responsabilités. Et vous savez, on apprend aussi beaucoup de ses erreurs. Elle a beaucoup appris aussi de ses années dans la vie politique parce que c'est dur, on prend des coups, on peut subir parfois des échecs. Mais je crois que nous avons démontré que nous étions aujourd'hui un parti responsable qui, dans les mairies où ils étaient au pouvoir, est réélu dans la plupart des cas dès le premier tour et qui surtout réussit à convaincre de plus en plus de Français, y compris des gens qui ne viennent pas du Rassemblement. Merci.
Appel sur l'actualité.